If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
Flashback loves Coppola.
I'm asking you, just do what you think is right in your heart.
À l'occasion du Festival Lumière 2019,
what is this? Another glorious battle for the kingdom?
Stéphane Moïsakis, Julien Dupuis et Rafik Djoumi rendent hommage à Francis Ford Coppola.
Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Sur We Love Cinéma.
Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Flashback Loves Coppola de We Love Cinéma, à l'occasion de la 11e édition du Festival Lumière qui se déroule à Lyon du 12 au 20 octobre 2019. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis accompagné de mes estimés collègues Rafik Djoumi. Rafik, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Et Julien Dupuis. Bonjour Julien.
Bonjour Stéphane.
Ensemble, nous entamons ce podcast consacré à la carrière du réalisateur Francis Ford Coppola, lauréat du prix Lumière 2019, une récompense qu'il recevra à Lyon le 18 octobre prochain. Mais avant d'évoquer les incontournables comme la trilogie du Parrain ou encore Apocalypse Now, nous allons d'abord consacrer cette première partie au début de Francis Ford Coppola. Il s'agit de quelques titres incontournables comme Demencia 13, Big Boy ou encore Les Gens de la Pluie, auxquels se greffent d'autres films qui ne sont pas tout à fait les siens. Rafik, quels sont les premiers pas de Francis Ford Coppola derrière la caméra?
Ils arrivent très tôt, en fait, ses premiers pas, puisqu'il a commencé à faire des courts-métrages dès l'enfance, même si le cinéma n'est pas sa passion originelle, en fait. Sa première grande passion, c'est le théâtre. Il est à cette époque, c'est pas un très bon élève, il est atteint de la polio, comme on le sait aujourd'hui peut-être, donc il est voilà un peu condamné chez lui à ne pas avoir une vie sociale très 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 agitée. Et donc il bricole, donc il lit beaucoup de pièces de théâtre et il bricole à tel point qu'il se passionne un peu pour la technologie. Ses amis du quartier le surnomment Science, donc on peut presque considérer que c'est un nerd avant l'heure, un geek avant l'heure. Et du coup le 8 mm rentre un peu dans son intérêt technologique. Mm-hmm. On n'a plus de traces aujourd'hui de ces courts-métrages qu'il a pu faire. Alors voilà, avec des titres comme The Lost Wallet, Le Portefeuille Perdu, ça devait être absolument passionnant. Mais en tout cas, il va mettre du temps à réaliser que le cinéma est pour lui plus une voie que le théâtre. Il va faire des études de théâtre d'abord, il va en sortir diplômé. Il va faire ça au Hofstra College, hein, dans la section Les Arts de la Scène. Donc ça, il rentre en 1955. Mais en fait, en 60, il s'inscrit à UCLA, l'University of California, de Los Angeles, dont les sections ciné à l'époque sont très très peu peuplées parce que la plupart de ces écoles de cinéma ne donnent pas du tout accès au métier. Hollywood est à l'époque quelque chose d'extrêmement cloisonné, extrêmement fermé. Il faut être syndiqué, il faut être passé par des tas de personnes pour pouvoir être coopté, etc. Les étudiants de ces écoles de cinéma, basiquement, ils apprennent plus à faire du film entre guillemets d'art qui ne verra jamais de voie commerciale, quoi.
Elles sont pas très très bien estimées non plus.
Elles sont pas du tout estimées.
Ces écoles à l'époque.
Voilà, les inscriptions vont exploser dans les années suivantes parce qu'il y aura plein d'étudiants qui veulent éviter d'aller au Vietnam et qui vont s'inscrire dans ces sections ciné. Donc les deux principales sur la côte ouest, donc c'est UCLA où Francis Ford Coppola qui l'intègre en 60 et USC, University of Southern California, dont on reparlera un peu plus tard. Donc là, il va faire des courts-métrages typiques de ce genre d'école, une adaptation de William Wilson d'Edgar Poe, une œuvre sur un artiste hanté par sa propre création qui s'appelle I Am On The Terrible. Mais je crois il est conscient que c'est pas ça qui va lui permettre de bosser dans le milieu. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est que il tourne un court-métrage qui s'appelle The Peeper, qui raconte l'histoire d'un mec qui essaie de regarder des jeunes femmes se dénuder. Et à partir de ces petites prises, avec l'aide d'un ami qui lui a eu accès à des stripteaseuses et qui a pu filmer du nu, il va faire un long métrage. Il a trouvé l'argent pour financer un long métrage qui est un nudie. À l'époque, c'est donc la mode des nudies. On est très très loin du cinéma porno qui va exploser dans les années 70. On en est encore à ces films où on voit un bout de sein quelque part. Et ça justifie que les messieurs en imperméable aillent payer leur billet. Donc ce nudie s'appelle Tonight for Sure. Il y aura une exploitation française sous le titre L'Ouest sauvage et nu. Ah, attention. Alors c'est une compilation de plusieurs scénettes qui sont très très mal enchaînées les unes les autres, et surtout, même si c'est sur le générique écrit, produit et réalisé par Francis Coppola. En réalité, il a pas tourné toutes ces scènes, puisque comme je l'ai dit, il y a cet ami qui a tourné les vraies scènes de nu. Coppola, en fait, à l'époque, un problème avec la nudité. En fait, son héritage italo-américain, catholique, il reste très très méfiant. Pour lui, c'est manquer de respect aux femmes que de les filmer nus. Néanmoins, il va quand même inviter son père, Carmine Coppola, qui est musicien, à faire la musique de ce nudie. Et il aura comme directeur de la photo un débutant également qui s'appelle Jack Hill, qui aura une carrière, enfin qui va suivre Coppola un moment et qui aura une carrière.
Dans la Blaxploitation, notamment dans les années 70.
Ouais. Ça marche bien, ça sort, ça fait de l'argent, il y a quelques gens qui le voient, et du coup il enchaîne tout de suite avec un autre nudie qui s'appelle The Bell Boy and the Showgirls, toujours écrit, produit et réalisé par Francis Coppola. Il n'hésite pas à mettre son nom, toujours avec Jack Hill, qui cette fois-ci passe de la photo au montage, et avec une playmate Playboy très célèbre à l'époque qui s'appelle June Wilkinson, qui en fait, ce film est fait à partir d'un film allemand. Ils ont récupéré des prises d'un film allemand qui s'appelait Mit Eva Fing die Sünde, sorti en 58, et en fait, comme on est à l'époque dans un revival de la 3D dans le circuit d'exploitation, en fait Coppola lui va rajouter des scènes en 16 mm 3D. Donc là on est toujours en 62, et il a toujours cet énorme problème avec la nudité. Il racontait, je le cite, il y avait une scène 3D où nous devions avoir 5 filles assises sur leur commode. Elles ont été embauchées et payées pour ça. Une des filles est venue vers moi et m'a dit: je n'ai que 17 ans et mon père va me tuer. Alors je lui ai demandé de garder son soutien-gorge. Il y avait donc ces 4 filles plus une avec son soutien-gorge. Et j'ai été viré parce que les producteurs se sont plaints des $500 que j'ai quand même dû payer à toutes ces filles. Cela a donc été l'un des thèmes de ma vie. Peut-être que quand j'aurai 80 ans, je franchirai enfin cette barrière de la nudité. Parce que c'est quelque chose, en fait, qu'il a poursuivi dans sa carrière. Il a toujours eu du mal à faire des scènes un peu osées, alors que c'est paradoxal étant donné qu'il a commencé avec des nudies.
Mais on connaît Coppola, le grand auteur, le réalisateur oscarisé. Mais est-ce que là, en fait, t'es en train de nous dire qu'il avait déjà une conscience financière très aiguë? Il avait à l'époque pour faire des films qui finalement étaient des films dans l'air du temps, quoi.
En fait, il avait pas trop le choix. Encore une fois, comme je l'ai dit, à l'époque, il y a pas d'entrée pour les jeunes gens dans le cinéma hollywoodien. Quand tu commences, t'as déjà 40 ans. Donc il y a que le cinéma d'exploitation pur et dur, mm-hmm, qui ouvre les portes à ces jeunes-là. Et ce cinéma d'exploitation, il fait des films de drive-in et aussi des films érotiques, de ce genre de choses. C'est un cinéma opportuniste, on va dire. Et c'est en mettant le pied là-dedans, qui va enfin pouvoir vraiment apprendre son métier, l'exercer réellement et se faire un nom. Parce que pour les étudiants de UCLA, le simple fait qu'ils soient dans le, entre guillemets, cinéma, pour eux, c'est déjà du cinéma, ça en fait une superstar, hein. Et son nom circule tellement dans les facs que même à USC, ils ont entendu parler de Coppola. Et alors le grand bond en avant, c'est sa rencontre avec
Roger Corman,
qui est le producteur de génie du cinéma d'exploitation de l'époque, et qui va se retrouver plus tard à être celui qui a fait démarrer toute cette génération, puisqu'en gros, il avait l'assurance de pouvoir les payer avec trois cacahuètes, et ces jeunes, en fait, s'est donné à fond sur ces films. Et là aussi, il va commencer, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec des films qui sont pas tout à fait les siens, puisque un de ses premiers boulots pour Coppola, ça va être de récupérer
pour Corman,
ça va être de récupérer un film de SF soviétique qui s'appelle Nebo Soviet, qui était sorti en 59, pour le transformer en film américain. Donc retourner des scènes, les redoubler, etc.
Ce qui était très courant dans le cinéma d'exploitation à l'époque.
Enfin,
le Godzilla de Honda avait déjà subi ce traitement-là, et c'était relativement courant, surtout pour les films russes, quoi,
ouais,
avec toutes les problématiques politiques que ça peut poser, quoi.
Alors néanmoins, même s'il avait signé ses nudies, là il a un petit souci au fait de devoir mettre son nom sur un film qui est pas le sien, par respect pour les vrais réalisateurs russes du film. Donc il signe sous un pseudo qui est celui de Thomas Kolchar, au niveau du réalisateur, mais il garde son vrai nom en tant que producteur associé. Son père, Carmine Coppola, est à nouveau engagé pour bosser dessus, et donc il fait un très bon boulot. Corman est impressionné par sa vivacité d'esprit et sa capacité à tout de suite comprendre, parce que voilà, enfin, c'est pas à UCLA que tu vas apprendre à monter des films de cette façon-là et à transformer un film en un autre film, quoi. Et donc Coppola va tout de suite le surcharger de boulot. Il va lui demander de réécrire les dialogues du film Tower of London, la Tour de Londres, avec le grand Vincent Price, qui est la star, c'est un bien gros mot, mais la vedette des productions Corman horrifiques de l'époque. Un film de course de voiture qui s'appelle The Young Racer, qui est sorti en France sous le titre Duel sur le circuit. Là, il s'occupe du son. Et il va être producteur associé sur The Terror, donc l'Halluciné, avec Boris Karloff. Qu'il a tourné en partie, tout à fait. Avec Boris Karloff et un jeune débutant qui s'appelle Jack Nicholson. Donc c'est une année très chargée. C'est durant ce duel sur le circuit que Corman va commencer à lui suggérer qu'il pourrait développer un film lui-même. Et donc c'est là qu'il va avoir l'idée de Démentia 13.
Et c'est là qu'il le tourne même, non? Puisqu'il le tourne
dans la foulée.
En Irlande, dans la foulée, c'est ça.
Parce que jusque là, ce ne sont pas vraiment ses films, et c'est surtout pas ce que l'histoire retient non plus de sa carrière dans l'absolu, puisque vraiment c'est des débuts très très modestes. Et Démentia 13, c'est un film d'horreur. Donc son presque unique film d'horreur, on peut dire. C'est
il a fait Dracula plus tard, bien sûr,
mais jusqu'avant son accession à la popularité. De quoi ça parle, Démentia 13?
C'est assez obscur, en fait. Bon, c'est une histoire de malédiction dans une maison avec une famille. C'est déjà une histoire de famille, en fait. Ça, c'est assez intéressant à noter. Et c'est une histoire de malédiction autour de la mort accidentelle, en fait, d'une fillette qui influencerait un tueur à la hache. On va dire ça comme ça.
You will be given a test prepared by Dr. Bryant to determine your ability to withstand shock. Those unable to pass this test will not be admitted to the theater. In this old castle, death is the youngest thing alive.
C'est totalement dans la mouvance des films d'horreur de cette époque. Enfin, par exemple, moi, ça me fait beaucoup penser à Mario Bava, en fait, les Démentia 13. Il faut savoir que le film avait été tourné en 9 jours. C'est ridicule.
Un budget de $40,000.
Voilà, donc c'est rien du tout.
Et Corman a fait pire.
Ouais, il a fait pire, mais enfin, ce qui est assez étonnant, Démentia 13 n'est pas un grand film, hein, loin de là. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même un vrai professionnalisme. C'est-à-dire que c'est un film qui est vraiment découpé, qui est vraiment monté. Et ça sent, et on sent qu'il y a déjà un vrai savoir-faire, en fait, derrière.
Tout à fait. Il faut souligner qu'il est toujours étudiant à ce moment-là. Il continue à suivre de moins en moins, mais continue théoriquement à suivre les cours de UCLA et à fréquenter les autres étudiants. Donc, il faut imaginer à quel point c'est vraiment, pour eux, c'est le grand, quoi. Et pour ce gamin isolé qui restait chez lui, qui avait pas beaucoup d'amis, là, voilà, de découvrir qu'en tant que cinéaste il peut avoir un tel prestige sur les autres, il va complètement recomposer sa personnalité, en fait. Le Coppola empereur ambitieux, etc., il va vraiment commencer à gonfler durant ces années là Et c'est sur le tournage de Démentia 13 qu'il va rencontrer Eleanor Jessi Neal, qui est donc travaille au département artistique et qui deviendra Eleanor Coppola. Donc c'est un film charnière pour lui. Néanmoins, c'est pas le film qui va lui valoir le prestige auprès des autres étudiants. Et celui-ci arrivera plus tard. C'est le film You're a Big Boy, donc You're a Big Boy Now en anglais, qui sort sous le titre Big Boy. Qui en fait est son projet de fin d'études. Il a racheté les droits d'une nouvelle adolescente. Le film est complètement dans l'air du temps de ce qui se faisait dans le cinéma anglais, notamment à l'époque. On n'est pas encore rentré dans le nouvel Hollywood, mais on sent que quelque chose de cet ordre-là commence à se faire jour. Mais on n'est pas dans le naturalisme, etc. J'aurais pas forcément d'exemple. Peut-être des films comme The Knack ou Comment la voir, qu'on pouvait voir en Angleterre à l'époque. C'est plus cet esprit swinging 60s, on va dire. Mais c'est ce film-là vraiment qui va impressionner les étudiants. Enfin, et ça c'est je pense très important pour tout simplement pour sa carrière, en 1965, il reçoit le prix Samuel Goldwyn qui récompense les meilleurs scénarios d'étudiants. Et ça, ça va lui valoir un contrat, un vrai, chez une boîte, dans une boîte qui s'appelle Seven Arts, qui est en fait une sous-branche de la Warner, dans laquelle il va tout de suite être engagé comme scénariste. Que ce soit script doctor, donc réécrire des morceaux de script déjà finis par d'autres, ou même donc scénariste plus impliqué. Un des films les plus importants sur lesquels il bosse à ce moment-là, c'est le film de guerre Paris brûle-t-il, en fait. Et cette mini carrière de scénariste pour un gars qui a beaucoup de littérature, beaucoup d'heures de littérature derrière lui, et une vraie passion pour le théâtre, et une vraie passion aussi pour le cinéma d'Elia Kazan, etc., ça va beaucoup le former. Il prendra l'habitude à cette époque-là d'être en mesure vraiment de réécrire une scène entière, à même le plateau, etc. Enfin, il va acquérir des mécanismes qui l'aideront beaucoup, beaucoup par la suite.
Et c'est aussi cette aisance qui va le conduire, mais ça on en parlera probablement dans les autres épisodes, mais qui va le conduire à remettre en cause aussi le format du scénario tel qu'on on l'utilise communément depuis la naissance du cinéma quasiment.
Et donc à cette époque-là, à Hollywood est en train de mourir hein, durant ces années-là. C'est l'époque où on produit des comédies musicales à tire-larigot, il n'y a que ça à l'écran. Des cow-boys qui dansent, des chevaliers de la table ronde qui dansent, enfin il y a tout le monde danse dans des grosses productions onéreuses en cinémascope, des espèces vraiment de boursouflures qu'on a complètement oubliées aujourd'hui, mais qui font que le public s'en détourne complètement. On commence à voir émerger une génération de jeunes qui ont les cheveux longs et qui sont parasés depuis des mois, et on leur demande en gros d'aller voir du Judy Garland quoi. Donc ça marche pas, ça passe pas. Donc les studios sentent qu'il va falloir qui change quelque chose. Et comme il bosse pour Seven Arts, donc il est sous branche de Warner, bah du coup Warner va l'engager sur une production en tant que réalisateur. Et c'est une comédie musicale, tant pis pour toi. Dans le vague espoir qui rajeunissent un peu le genre. Cette production, c'est un film de Fred Astaire qui est vraiment vieillissant, avec une jeune venue qui est Petula Clark, qui s'appelle en français La Vallée du Bonheur, donc Finian's Rainbow en anglais. Projet complètement aberrant quand on connaît aujourd'hui la carrière de Coppola, puisque donc c'est une comédie musicale avec des farfadets et des lépréconnes.
Look, look, look to the rainbow. Follow it over the hill and stream. Look, look, look to the rainbow. Follow the fellow who follows a dream.
Et en fait, c'est un film complètement schizophrène parce qu'il est à cheval entre deux époques. Coppola veut absolument tourner en extérieur, le studio, les vieux du studio veulent absolument tourner à l'ancienne dans des décors. Donc en fait, on a les deux dans le film et ça se voit. Mais alors c'est-à-dire que les scènes extérieures sont naturalistes comme on imagine le cinéma des années 70, là où les scènes de studio, c'est vraiment les années 40 qui reviennent à la charge. Et surtout, il est entouré de gens qui ont entre 60 et 70 ans et lui il en a 28. Donc c'est très compliqué avec sa barbe de 6 mois et ses cheveux longs et gras de se faire respecter par ces vieux roublards techniciens qui vraiment le méprisent quoi. Et un jour il va voir sur le plateau quelqu'un qui a l'air d'avoir le même âge que lui, en fait un observateur qui a l'air d'avoir le même âge que lui, qui en fait est un étudiant qui a gagné un prix et qui a eu le droit de venir visiter les plateaux. Donc il va immédiatement aller vers ce jeune, genre viens me sauver s'il te plaît, et ce jeune homme s'appelle George Lucas, et ça va être la fameuse rencontre Lucas Coppola qui va mener à beaucoup de choses dont on parlera dans
Mais
un ça, autre
on en parlera
podcast.
Dans un autre épisode évidemment. Après ce film-là, il y a Les gens de la pluie.
Alors oui, une fois donc qu'il va sortir de cette expérience terrible, hein, parce que même si Petula Clark va avoir une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice, grâce à la direction, clairement grâce à la direction de Coppola, ça sera pas suffisant pour lui donner l'impression d'avoir fait le film qu'il voulait. Lui, il voulait débouler à Hollywood par quelque chose d'explosif qui impose son nom immédiatement, pas sur une comédie musicale avec des lépreconnes. Donc il sent qu'il faut qu'il se dépêche de faire son truc à lui. Par l'entremise de Lucas, il a aussi rencontré John Milius. Lucas et John Milius, ils viennent de l'USC, donc la fameuse autre école de la côte ouest. Et John Milius disait à l'époque, Francis piquait du matériel, des équipements, en disant le jour où ils me virront, on aura tout ce qu'il faut pour tourner un autre film. Et donc c'est bien ce qui se passe. C'est comme ça qu'il décide de faire un peu en dilettante Les gens de la pluie. Donc est une forme de road movie c'est pas vraiment une comédie d'où sa mère, mais ça se veut une chronique en fait de la vie américaine de l'époque. Et c'est vraiment tourné tel quel, c'est-à-dire qu'ils partent sur la route, ils savent pas vraiment par quel bout ils vont le prendre, etc. Il y a, pour ceux que ça intéresse, on trouve sur YouTube en morceaux, découpé en morceaux, le making of que George Lucas a réalisé donc sur le plateau des gens de la pluie. Donc c'est très drôle de voir ces jeunes hippies en train d'essayer de faire du cinéma. Et donc il a sur ce film-là, il a commencé. On voit qu'il a commencé à se constituer sa petite troupe. Il a donc sa femme, il a Lucas et il a l'acteur James Caan qui connaissait de ses études de théâtre et tout. Et donc il commence à réaliser le chef opérateur Bill Butler qui sera plus tard connu pour Les Dents de la Mer, Melissa Mathison, future scénariste de E.T., Walter Murch qui va complètement révolutionner le son à Hollywood. Et une certaine Marcia au montage, qui plus tard deviendra Marcia Lucas,
la femme de George Lucas,
montrera tous ses films. Donc vraiment, il commence à voir qu'il est le chef d'une bande et qu'il y a quelque chose à jouer. Et un jour, alors qu'ils sont en train de, ils ont monté un banc de montage rapide dans une grange, il tombe amoureux de l'ambiance en fait de travail, de tous ces gens en train d'essayer de faire un film. Tu vois, ils apprennent en même temps. Il tombe amoureux de ça et il se dit. C'est ça qu'il faut jouer en fait, et c'est là que va germer une idée dont on parlera dans un autre podcast, qui est l'idée du studio Zoétrope. Mmh.
Et du coup, alors on peut peut-être dire que Le Géant de la Pluie, c'est peut-être le premier vrai film de Francis Ford Coppola, en tout cas celui qui est identifiable pour les gens aujourd'hui et sur lequel ils peuvent revenir dans la carrière d'auteur de Francis Ford
Coppola. C'est son film, ça a son film préféré déjà, Coppola. Mmh. Peut-être le
cinéma, c'est son film revendiqué. C'est avec ça qu'il veut commencer, en fait. Il a dû auparavant presque se vendre au système pour espérer franchir une barrière qui était, encore une fois, il faut insister là-dessus, infranchissable à l'époque. Hein. C'était incroyable de pouvoir faire du cinéma quand on était aussi jeune. Les gens de la pluie, c'est avec ça qu'il veut se révéler au monde et surtout la méthode de travail, en fait, très très collégiale, très collective. N'a rien à voir avec la hiérarchie extrême qui a cours encore dans les studios hollywoodiens de l'époque. Pour l'anecdote, donc il espère évidemment que son film va révolutionner le cinéma hollywoodien. Sur le tournage donc des Gens de la pluie. Alors il y a une anecdote rigolote, c'est que il y a eu un état, donc ils ont traversé et ils ont dû se raser tous, parce qu'en fait c'était une région où ils acceptaient pas les hippies. Donc
c'est ça dans le documentaire de George Lucas, c'est merveilleux en fait de les voir tout jeunes, tout à coup de voir Coppola sans sa barbe
c'est quelque chose. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que Lucas a constaté que durant cette période où il avait plus la barbe, son équipe avait moins tendance à lui obéir. En fait, il avait perdu de son autorité. Bref, mais du coup, ils vont croiser une autre bande qui sont aussi des anciens de Corman, de chez Roger Corman, qui eux aussi sont en train de faire un road movie qui s'appelle The Loners, et qui vont se foutre de leur gueule parce que quand ils vont les voir comme ça, complètement imberbe. Et donc, c'est un
titre de travail.
C'est un titre de travail, ouais. The Loners, puisque ça va sortir sous le titre Easy Rider. Et c'est ce film-là, et pas celui de Coppola, qui va complètement redéfinir la règle à Hollywood. Donc il est quand même passé à ça, d'être celui qui changeait tout.
Il a été aussi scénariste, en fait, à cette époque-là. Il a débuté par l'écrit. Hein, après Les Gens de la Pluie, il y avait aussi en fait un scénario.
En fait, voilà, il va retourner à son boulot de scénariste, parce qu'il faut bien vivre, et qu'il est demandé par les studios, parce qu'il a un véritable talent. Et donc il va écrire le scénario d'un film qui s'appelle Patton, qui au départ est vraiment censé être un film comme on en voyait dans les années 50-60 à la Le Jour le Plus Long, etc., mais qui va complètement transformer par une espèce d'obsession du personnage pour la résurrection, etc. Enfin, il va partir complètement dans son truc.
Et aussi une certaine théâtralité aussi, je pense, qui vient directement de Coppola, quoi.
Tout à fait, une vraie théâtralité. Et donc il raconte, j'avais écrit cette ouverture bizarre où le personnage récite un long monologue devant un drapeau américain. Les producteurs m'ont dit ok, merci bien, ils se sont empressés d'aller engager un autre scénariste. Donc en fait ils lâchent le scénario pour le faire réécrire. Ce qui se passe, c'est que leur star, George C. Scott, lui, il a auditionné sur des morceaux du script de Coppola. Et donc quand il apprend que c'est pas ce scénario-là qui va passer, il refuse de prendre le rôle. Et il dit je ne veux jouer que ce qui a été écrit par ce jeune homme. Et donc c'est vraiment George Scott qui remet Coppola à la barre. Et donc Patton va sortir avec cette fameuse scène d'ouverture et ce long monologue incroyable qui vaudra à Coppola d'être nominé à l'Oscar du meilleur scénario. Donc il commence les années 70 sur une très haute note.
I want you to remember that no bastard ever won war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. Men, all this stuff you've heard about America not wanting to fight, wanting to stay out of the war, is a lot of horse dung. Americans traditionally love to fight. All real Americans love the sting of battle. Americans love a winner and will not tolerate a loser.
Et voilà, c'est terminé donc pour cette première partie de Flashback Love Scopola. Dans la seconde partie de ce podcast, en 4 épisodes, nous reviendrons sur l'incontournable trilogie du parrain. C'est avec ça qu'il va lui aussi redéfinir le cinéma hollywoodien dans les années 70. Et sur la façon dont elle va faire écho en fait, à sa propre carrière et à sa propre famille. Voilà. Merci messieurs et à bientôt sur We Love Cinéma.
Au revoir.
Au revoir.